Vous écoutez RTL.
Vous êtes bien sur RTL. RTL, première radio de France.
RTL, la curiosité est un vilain défaut.
De 14h à 15h, avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.
Bonjour, salut à vous les curieux. 14-15h, c'est votre émission d'histoire, de rencontres, de surprises et d'anecdotes. Et c'est tous les jours sur RTL. Bonjour Thomas.
Salut Sidonie, ça va bien?
Ça va très bien et vous?
En pleine forme. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Vous le savez, dans cette émission, on aime les aventuriers. Justement, il faudra avoir le cœur bien accroché tout à l'heure vers 14h30. On vous embarque à bord de l'Astrolabe. C'est ce navire français d'exploration polaire. Vent violent, iceberg géant et mal de mer, garanti.
Et tout de suite sur RTL, un pays en guerre et un homme, une énigme, Bachar el-Assad.
RTL.
Nous avons la légitimité pour libérer n'importe quelle zone contrôlée par les terroristes. Qu'ils s'appellent État islamique, qu'ils s'appellent Nosra, qu'ils se disent modérés ou bien casque blanc, nous n'avons rien à faire des noms.
La curiosité est un vilain défaut.
Tout ce qu'il a lui-même attisé avec cynisme et méthode. Contre toute attente, il a conservé son pouvoir, malgré le soulèvement de son peuple et malgré des Occidentaux qui l'ont trop longtemps sous-estimé.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité n'est vraiment pas un vilain défaut.
Sur RTL.
Alors que les forces du régime de Bachar el-Assad tentent en ce moment même de reconquérir la province d'Idlib, en partie sous le contrôle des djihadistes, et ce au prix de nombreuses victimes civiles, on se pose une question. Qui est vraiment Bachar el-Assad? Bonjour, Régis Le Sommier.
Bonjour, bonjour.
Soyez le bienvenu, vous êtes grand reporter, directeur adjoint de Paris Match, expert du Moyen-Orient et du terrorisme. Aujourd'hui, après 6 ans de guerre, 6 ans de conflit, quel est le bilan de Bachar el-Assad?
C'est pas le bilan de Bachar el-Assad, c'est le bilan d'une guerre dans laquelle il est un élément important, un élément distinct.
Déclencheur,
je le pense au début, je l'analyse comme ça. La guerre, elle a commencé en mars 2011 dans la ville de Deraa, et c'est une répression à une sorte de mouvement qui a commencé avec des tagages d'enfants sur les murs. Et ensuite, ça s'est propagé un peu partout en Syrie, dans des villes. Il faut voir aussi que ça se place aussi dans le contexte des printemps, de ce qu'on appelait les printemps arabes à l'époque, avec la révolution en Tunisie, en Libye, en Égypte, et que, évidemment, le mouvement qui va enflammer la Syrie n'est pas étranger à ça. Il s'agit d'un mouvement qui se propage et d'un mouvement de contestation face au pouvoir en place, aux autocrates, globalement. Ça,
donc,
c'est le début.
Donc, le point de départ, c'est la répression d'un mouvement populaire, on va schématiser. 6 ans après, il y a eu 340 000 morts. Quelle est la part de responsabilité de Bachar el-Assad dans ces morts? On dit qu'il a quand même frapper son propre peuple à de nombreuses reprises, les armes chimiques, par exemple, pour en parler.
Oui, alors les armes chimiques, d'abord, oui, elles ont été utilisées probablement par son camp, d'après les enquêtes qui ont été menées, mais de ces 340 000 morts, il y en a au moins la moitié qui sont dans son camp. 120 000 morts dans son armée. Oui. On n'est pas dans une lecture, on ne peut pas proposer sur la Syrie une lecture noire et blanche entre quelqu'un d'extrêmement néfaste, ayant pour vocation soit de se défendre ou de défendre son clan, et puis à côté un peuple qui se soulève contre lui. C'est un peu plus compliqué que ça.
Il se bat contre qui, Bachar el-Assad? Quels sont ses ennemis?
Alors, au départ, effectivement, il y a une révolution syrienne avec des gens qui proposent des plateformes diverses. Mais assez rapidement, cette révolution, elle est gangrénée. D'abord, elle est gangrénée par ces divisions. Il n'y a pas, dans le camp rebelle, et il n'y aura jamais pendant la guerre, de figure tutélaire, de quelqu'un qui va pouvoir incarner un mouvement de façon à proposer une alternative au pouvoir syrien. Ça, c'est fondamental. Ensuite, chez les rebelles, il y a assez vite, et c'est naturel quand on observe globalement l'histoire de la Syrie contemporaine, l'ennemi irréductible du pouvoir d'Hafez al-Assad, du père de Bachar el-Assad, c'était les djihadistes, déjà, c'était déjà l'islamisme. Et donc, les frères musulmans. Donc, il y a une sorte de le mouvement rebelle va être assez vite gangréné par les islamistes, qui vont proposer quoi? Parce que ce sont les mieux armés, les mieux formés, ceux qui ont l'habitude, c'est le camp d'opposition naturelle. Face à ça, nous, on n'a pas voulu le voir. L'Europe, les Français, on n'a pas voulu voir que, assez rapidement, ce camp rebelle allait se partager entre des groupes comme Ahrar al-Sham, Jabhat al-Nusra à l'époque, qui a changé de nom depuis, et puis Jaych al-Islam, tous les noms des groupes
islamistes. Parce que là, ça ne dit pas grand-chose à ceux qui ne connaissent pas la région.
Mais le plus modéré pour moi serait Jaish al-Islam, qui veut dire l'armée de l'islam. Donc déjà, en soi, ce nom est assez révélateur sur la plateforme politique proposée. C'est la charia, c'est l'application de la loi coranique, c'est pas du tout la démocratie telle que nous, en Occident, on pensait pouvoir l'imposer en Syrie ou on pouvoir la voir triompher là-bas.
Vous publiez, Régis Le Sommier, Assad, ce livre qui sort demain, si je ne me trompe, portrait du président syrien aux éditions de la Martinière. C'est la première fois que vous venez en parler, que ce soit en radio ou en télévision. Merci d'avoir choisi RTL. Vous l'avez rencontré, Bachar el-Assad. Il est comment ?
Alors, je l'ai rencontré à deux reprises, dans deux contextes très différents, mais à des contextes, il faut le préciser, novembre 2014, et je l'ai rencontré en juin 2015. Mmh. Donc, c'est à deux moments clés de la guerre, c'est-à-dire que c'est des moments où il est vraiment dans une position d'extrême faiblesse. Le gouvernement syrien a perdu, à ces deux époques-là, ne contrôle plus qu'environ 30% du territoire syrien. 30% sur lesquels il y a quand même 60% de la population. Mmh. Il s'accroche aux villes, il s'accroche aux grands axes. Quand je suis à Damas, à ce moment-là, dans les deux cas, il ne se passe pas 10 minutes sans qu'on entende un coup de feu, une explosion. Il y a des offensives tous azimuts. Les rebelles sont aux portes de Damas. Ils le sont toujours. Hein. Ils occupent toujours des quartiers.
Vous voyez un président inquiet, Bachar al-Assad, il est comment face à vous ?
Je suis très surpris de ça. Je ne suis pas le seul à l'avoir interviewé. Mais à ces deux moments-là, où il s'écoule environ 6 mois, j'ai toujours trouvé quelqu'un qui me semblait certain de triompher, et en tout cas qui donnait cette impression. La deuxième fois, quand je le rencontre, c'est en juin 2015, les Russes ne sont pas encore intervenus en Syrie. Vous savez que l'arrivée des Russes et leur intervention militaire va être décisive. C'est ça qui va retourner le sort en la faveur du régime de Bachar el-Assad et le faire reconquérir, le placer dans une dynamique de reconquête. Mais là, il est acculé à ces deux moments et il ne donne absolument pas l'impression qu'il va céder le pouvoir, quoi.
Régis Le Sommier, vous allez nous raconter dans un instant, parce que vous avez été accueilli dans le bureau de Bachar el-Assad. Vous allez nous dire ce qui vous a frappé, ce que vous avez repéré sur les murs de son bureau. A tout de suite sur RTL, les curieux.
La curiosité est un vilain défaut.
Pour conserver le pouvoir, cet homme a initié une effroyable guerre civile, responsable de la mort de 300 000 Syriens.
RTL.
Poussé à l'exil, 3 millions d'entre eux. La crise des migrants. La stabilité du Moyen-Orient, nos relations avec la Russie, tout cela passe par lui. Bachar a fini par endosser le costume de son père, qui au début paraissait bien large.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, on est bien entre curieux sur RTL.
Qui est vraiment Bachar el-Assad, l'homme qui dirige la Syrie depuis 17 ans ? La question est simple, mais la réponse, on le comprend, est beaucoup plus complexe. On est avec le grand reporter de Paris Match, Régis Le Sommier. Vous avez rencontré, vous nous le disiez, à deux reprises Bachar el-Assad, et notamment pu visiter, enfin pu voir son bureau. Qu'est-ce qui vous a frappé ?
Alors, ce qui m'a frappé, d'abord, c'est une extrême sobriété dans le lieu dans lequel il travaille, puisque c'est visiblement là où j'ai été les deux fois, à la fois pour une interview officielle pour Paris Match, donc en novembre 2014, et ensuite quand je l'ai revu en juin 2015, j'étais dans le même lieu, donc j'ai pu regarder. Son bureau est extrêmement sobre, il n'y a pas de pile de papier mais il y a un espèce d'immense écran, un Mac de 21 pouces environ, donc on trouve dans toutes les rédactions, mais qui est visiblement l'endroit d'où il observe tout ce qui se passe autour de lui. Ce qui m'a paru intéressant aussi, c'est que la déco a été faite en partie inspirée par sa femme, puisqu'il y a de l'influence anglaise. Vous savez qu'ils ont habité à Londres. Mmh. On voit, il y a des dessins de Piccadilly Circus, Trafalgar Square et autres. Et puis, il y a beaucoup de dessins d'enfants. Alors, ces dessins d'enfants, on m'a dit, ce sont ceux des enfants de ce qu'ils appellent les martyrs, c'est-à-dire les soldats de l'armée syrienne tombés au front. Et donc, on a un certain nombre encadrés dans son bureau. Donc,
c'est de l'empathie.
Je pense pas que ce soit de la com, parce que c'est pas véritablement ce coin de son bureau. Quand on arrive, donc il y a des canapés et là on discute, on se met face à face, c'est très formel, voilà, on n'est pas amené à regarder ça, mais quand on y va plusieurs fois, évidemment on observe, et on est journaliste, on est curieux. Je crois que c'est la bonne émission pour ça, pour remarquer un certain nombre de détails qui peuvent donner quelque chose de supplémentaire par rapport à ce qu'on connaît. Et donc justement, ce grand Mac, ce grand Macintosh sur son bureau, il a un côté, et ça j'ai pu le noter parce que la deuxième fois je l'ai vu pendant 3 heures, il a un côté, il est très scientifique dans sa façon de voir les choses.
Vous parlez même d'expression, il emploie des métaphores informatiques, qu'est-ce que
oui,
c'est dans son vocabulaire,
oui, Bachar
al-Assad.
Il va parler de l'État islamique comme d'un virus par rapport à un logiciel, d'incompatibilité communautaire comme une différence Mac-PC. Il utilise ce genre d'image.
Comme s'il était un peu coupé aussi de la réalité, alors, de l'horreur de ce qui se passe sur le terrain.
Moi je pense que d'abord, il n'est pas forcément coupé de l'horreur, puisqu'il visite, il rend visite dans des endroits où ses partisans, ou des gens en tout cas qui sont heureux de le voir, et c'est très spontané. Il ne faut pas imaginer que Bachar al-Assad est une sorte de dictateur pour qui on créerait... Non, il y a une réelle popularité de Bachar al-Assad. Je pense que ça fait partie des choses qu'on a du mal à comprendre en Occident. Le patriotisme syrien qu'il a su capter est quelque chose d'absolument très très fort aujourd'hui.
Parce que la population n'a plus le choix, par exemple, de croire en lui parce qu'il ne reste plus que lui, peut-être.
Vous savez, la population, vous prenez une ville comme Alep, moi j'ai fait 3 séjours à Alep, la population à Alep, elle est résignée à aller vers le camp qui lui apporte le plus proche possible d'une vie normale aujourd'hui. Après 6 ans de guerre... tout le monde est absolument épuisé dans tous les camps. Ça, c'est une dimension dont on a du mal à se rendre compte. Mais imaginez, 6 ans de guerre, c'est plus important que la Première Guerre mondiale, plus important que la Seconde Guerre mondiale. Et les gens, on va arriver à 7 ans bientôt, en mars. Et donc, par rapport à ça, la population, elle sait que du côté gouvernemental, elle aura un minimum de services, un minimum d'accueil, et que finalement, beaucoup d'ailleurs acceptent, bon gré mal gré, une réconciliation pour retrouver un semblant de vie normale. Tout le monde a perdu, chaque famille a perdu quelqu'un dans cette guerre, même plusieurs, des gens, il y a énormément de Syriens qui sont partis à l'étranger, la Syrie est devenue mondiale. Quand vous discutez avec les gens, ils ont tous un cousin en Allemagne, avec lequel ils gardent des contacts. Il n'est pas forcément parti à cause de Bachar al-Assad, il n'est pas forcément parti, il est parti à cause de la guerre. Voilà. Et sur la question des zones rebelles, eh bien, ce que j'ai cru remarquer, c'est quand même que beaucoup de gens témoignent qu'ils ont été prisonniers dans leur quartier, que les rebelles ne les laissaient pas sortir, et qu'il y a eu quand même une espèce d'emphase où on a évidemment imaginé que le camp rebelle était celui qui détenait une légitimité, alors que il était gangréné, comme j'ai déjà dit, par des islamistes, que la vie, c'était cette vie-là. Les Syriens n'en veulent pas. Ils ne veulent pas, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, mais ils savent ce qu'ils ne veulent pas.
Voilà. Régis Le Sommier, vous publiez Assad aux éditions La Martinière. Il y a une question qu'on doit vous poser, parce que c'est l'une des révélations de ces derniers mois, le viol utilisé comme arme de guerre par les armées, les soldats de Bachar el-Assad. Vous allez nous dire ce que vous en pensez dans un instant. Restez avec nous sur RTL.
Le destin d'un homme qui aurait dû être ophtalmologiste et qui se retrouve à 34 ans, 35 ans à la tête de la Syrie, 17 ans après. On fait les comptes, 6 ans de guerre, 340 000 morts, des millions de déplacés et des pratiques aussi terrifiantes. Régis Le Sommier, est-ce que c'est vrai que le régime de Bachar el-Assad utilise le viol comme arme de guerre, et avec quelle fréquence et depuis quand?
Alors, j'ai vu effectivement vous référer par rapport à un reportage, un documentaire qui a été produit par Manon Loiseau et Annie Cogent il n'y a pas longtemps, qui se base sur des témoignages de prisonnières ou de femmes qui ont été torturées et violées et qui se trouvent en Turquie actuellement. Moi, je n'ai pas d'éléments sur le système carcéral syrien. Je sais que ce système carcéral est évidemment de notoriété. La prison de Sednaya, notamment, qui est évoquée dans ce documentaire, est un endroit évidemment terrible. Il y avait la prison de Palmyre aussi avant. On avait enfermé pas mal, justement, de frères musulmans et d'opposants au régime. La question que je me pose, c'est le côté systématique qui est décrit dans ce... Je pense qu'on en devrait avoir un tout petit peu plus d'éléments pour dire c'est systématique. Voilà. Elle se base par rapport à un certain nombre de témoignages. Je ne mets pas en cause la validité de ces témoignages. Néanmoins, je ne mets pas en cause non plus la dureté du système carcéral syrien, mais voilà, je n'ai pas d'éléments qui me permettent aujourd'hui d'aller dans leur sens, de dire il y a eu viol systématique. Voilà.
En fait, ce que vous dites, Régis Le Sommier, et ce qu'on retrouve dans votre livre Assad, publié aux éditions de La Martinière, c'est que on a eu peut-être une vision un peu caricaturale de ce conflit syrien depuis des années, en France notamment.
Je pense qu'on a fini...
Je ne dis pas que le reportage de Manon Loiseau et Annick Cogent était caricatural, pas du tout. Hein, mais là, globalement, la perception politique et médiatique de ce conflit.
Je pense que oui, on a eu une vision caricaturale, notamment en France, on a pris, alors qu'on a... je vais dire, jouer avec la Syrie pendant des décennies. Je rappellerai l'époque où François Mitterrand avait des relations particulières via Roland Dumas, par exemple, le ministre des Affaires étrangères à l'époque, avec le gouvernement d'Hafez el-Assad. Il y a eu des périodes où la Syrie s'est retrouvée exclue. Il y a eu des périodes où, sous Jacques Chirac a vu beaucoup d'espoir en Bachar el-Assad quand il a été nommé. Ensuite, Nicolas Sarkozy l'a fait revenir en grâce. Donc il y a eu beaucoup d'allers-retours dans les relations franco-syriennes qui ont été extrêmement compliquées. Et puis là, tout à coup, au départ avec Alain Juppé et ensuite avec Laurent Fabius, on a glissé sur une espèce de fantasmagorie de ce que devrait être le camp rebelle. Je me base par rapport à l'écrivain anglais George Orwell qui avait dit la même chose sur la guerre d'Espagne tout en faisant partie du camp républicain à l'époque, mais je trouvais que c'était assez bien vu. C'est dit, j'ai vu l'histoire s'écrire comme on aurait voulu qu'elle soit et pas comme elle a été. Et là, c'est exactement ça. Mmh. C'est-à-dire que ce soit sous la législature, sous le ministère de Laurent Fabius ou de Jean-Marc Ayrault, on a fantasmé le camp rebelle. Voilà. Je pense qu'on a imaginé qu'en face, on avait des interlocuteurs et qui n'étaient pas capables, en tout cas qui n'étaient pas assez organisés pour proposer une alternative.
On vous interrompt parce qu'on voudrait garder un peu de temps pour parler du personnage.
Ah oui, du personnage et puis aussi de ce qui attend Bachar al-Assad. De la reconstruction du pays, quelle partie, quel pourcentage du territoire est détruit? Qu'est-ce qu'il va falloir faire maintenant?
Aujourd'hui, le gouvernement syrien est sur environ 60% du pays. Il a reconquis 60% du pays. On estime qu'un quart des villes, des habitations syriennes ont été détruites. Environ un tiers d'Alep, un quart de Homs, la moitié de Deir ez-Zor et puis 15% de Damas. C'est considérable.
Et il faut réaccueillir
plusieurs millions de réfugiés. Ça a commencé. Hein. Je suis allé à Alep il y a un mois. Des réfugiés sont déjà revenus. Mais en général, il y en a assez peu. Il y a toujours cette crainte aussi, ça c'est une info importante, que les hommes soient enrôlés dans l'armée. Donc il y en a qui ne veulent pas revenir. Il y a y compris des chrétiens encore aujourd'hui qui continuent à quitter la Syrie parce qu'ils ont peur d'être enrôlés dans l'armée et de devoir aller combattre. Ça c'est des éléments assez importants qu'il faut souligner. Il y a un problème avec la reconstruction parce qu'il n'y a plus d'hommes en âge de pouvoir construire. À Alep, dans la reconstruction du souk, aujourd'hui vous avez des très jeunes et des très vieux. Vous n'avez pas parce qu'ils sont tous à l'étranger. Beaucoup de Syriens sont partis.
Bon, et alors cette personnalité de Bachar el-Assad qu'on a déjà évoquée avec vous, Régis Le Sommier, on va continuer d'en parler dans un instant. Notamment, est-ce que c'est un geek un peu coupé de son peuple? Question et réponse à venir sur RTL.
14h-15h.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Avec le grand reporter de Paris Match, Régis Le Sommier, on découvre la personnalité et la politique forcément de Bachar el-Assad, le président de la Syrie depuis 17 ans maintenant. Il a succédé à son père. Qu'est-ce qui les différencie? Je disais, lui, il a un côté un petit peu geek. Vous nous décriviez son ordinateur flambant neuf sur son bureau. Est-ce que du coup, il avait moins le feeling, le sentiment, la connaissance de son peuple que son père, Hafez el-Assad?
Moi, je le pense, effectivement. Je pense que d'abord, c'est quelqu'un qui a une double culture, qui a une culture occidentale, culture orientale, qui connaît très bien les deux, qui joue de l'une avec l'autre, évidemment. Et surtout, il a vécu à l'étranger. Et il a vécu d'une certaine façon un petit peu détaché, même quand il était en Syrie, puisqu'il faisait partie de cette caste gouvernementale de Happy Few d'une certaine façon, et il est parti à l'étranger, il a vécu à Londres. Son côté scientifique est très différent de son père. Par exemple, il n'a pas le côté militaire. Le père a été colonel de l'armée de l'air. Lui, il n'est pas passé par les académies militaires.
Il a une
militaires.
Toute petite formation, c'est ça, d'une année à peine.
Il a préféré faire de la médecine tout de suite. Mmh. Donc c'est quelqu'un, je ne dis pas qu'il est complètement détaché, mais au départ, il n'a pas vu la révolte venir, à mon avis. Et par rapport à son père sentait beaucoup plus son peuple. parce que son père venait d'escroissance très modeste. C'était le premier dans la famille à être allé à l'école, par exemple. Il s'est hissé à la force d'une poignée jusqu'à devenir la personne régnante, celui qui a pris le pouvoir en Syrie. Donc d'une certaine façon, il savait jouer un petit peu et sentir les mouvements qui pouvaient exister. Et quand il y a eu l'affaire de Deraa au début et les multiples révoltes qui ont eu lieu, les multiples manifestations, eh bien Bachar el-Assad à l'époque n'a pas vraiment su comment jouer, s'il fallait jouer encore la carte du moderniste qu'il avait tenté, ou s'il fallait utiliser de la répression ou une autre forme. Il a été un peu dépassé par les événements. Je mets un bémol à ça en disant que contrairement à ce qu'on a pu affirmer à maintes reprises, c'est bien Bachar el-Assad qui prend les décisions en Syrie. Ce n'est pas... Alors, à une époque, il y avait une vieille garde qui était là, qui était de l'époque de son père. Mmh. Vous aviez des personnalités comme Mustafa Atlas, par exemple, le ministre de la Défense et autres, qui ont aidé Bachar el-Assad dans sa première phase d'exercice du pouvoir. Et puis, après, c'est assez vite lui qui a pris les choses en main. Et de dire aujourd'hui que c'est d'autres personnes qui le manipulent, c'est faux, c'est lui qui est aux commandes.
Merci beaucoup. Merci. Régis Le Sommier, votre enquête et votre portrait à découvrir, Assad, aux éditions de La Martinière, ça sort demain. Merci, bonne
chance. Merci beaucoup.
Vous écoutez RTL.